Réplique, le clonage est-il un mal absolu avec Gilbert Autois et Israël Nizan. Rien ne l'arrêtera. Ainsi commence l'article clonage du dictionnaire du XXIe siècle écrit par Jacques Attali dans les dernières années du XXe. Comme pour faire mentir cette annonce de l'inexorable, le gouvernement français a présenté un projet de loi de bioéthique qui interdit le clonage reproductif comme le clonage thérapeutique et qui qualifie le premier de crime contre l'espèce humaine. A-t-on raison de fermer au moins symboliquement la porte que Raël, le docteur Antinori et tant d'autres sont impatients d'ouvrir? Voilà ce que je voudrais demander sans attendre à Israël Nizan, professeur de gynécologie obstétrique à la faculté de médecine de Strasbourg, et à Gilbert Autois, qui est titulaire de la chaire de philosophie contemporaine à l'Université libre de Bruxelles et qui a codirigé une nouvelle encyclopédie de bioéthique aux éditions de Book. Crime contre l'espèce humaine, cette dénomination solennelle, vous semble-t-elle appropriée, Israël Nizan?
Cette dénomination me semble appropriée, bien que cette incrimination n'existe pas. Il s'agirait donc de créer une nouvelle incrimination, et devant l'urgence et l'importance de se donner des règles dans ce domaine qui ne fussent pas limitées au pays et à la nation française, il me semblait utile d'utiliser une incrimination déjà existante qui est le crime contre l'humanité, qui a deux avantages. D'abord, il touche toute la planète, et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de prescription possible. Comme il y a beaucoup d'argent derrière le clonage reproductif qui se profile, le marché est intéressant, les technologies vont évoluer, et un jour nous serons confrontés au clonage reproductif. Si on estime véritablement que le clonage reproductif est une mauvaise chose, interdisons-le nettement.
Oui, alors, je vais vous poser deux questions, enfin vous faire part d'une certaine perplexité et puis vous poser une question précise. Parler de crime contre l'humanité, ça risque tout de même de perturber l'humanité elle-même, parce que cette notion a été introduite dans le droit à l'issue de crimes qui visaient des peuples tout entiers, qui visaient à les faire disparaître, n'y a-t-il pas un risque, si vous voulez, de tout confondre, c'est-à-dire placer sur le même registre une entreprise d'anéantissement et une entreprise de création d'humanité un peu folle? Première question, et deuxième question, avant de passer la parole bien sûr à Gilbert Autois, c'est une mauvaise chose, dites-vous, le clonage. En quoi est-ce une mauvaise chose?
En utilisant le terme, ou en proposant le terme du crime contre l'humanité sur le clonage reproductif, je fais allusion ou référence à quelque chose d'autre qui vient d'être déclaré crime contre l'humanité, sans pour autant porter atteinte à l'humanité de manière aussi nette que la Shoah ne l'a fait. C'est le viol ethnique en Tchécoslovaquie et dans les pays serbes. Le viol ethnique vient d'être reconnu crime contre l'humanité, à savoir que quelqu'un qui s'est livré à cela, puisque c'est une arme de guerre contre les femmes et contre un peuple, il y a eu des condamnations au nom du crime contre l'humanité. Certes, les enfants issus de ces viols existent, comme les clones existeront, mais pour autant faut-il légitimer le crime qui leur a donné naissance. Et c'est un petit peu la même logique que le couteau. On ne peut pas interdire le couteau car il sert à couper, mais il sert également au meurtre. Je pense que le clonage peut servir à de très bonnes choses, mais le clonage reproductif, je n'en vois pas l'usage.
Alors vous me dites, c'est une mauvaise chose, pourquoi?
C'est une mauvaise chose car vous et moi, nous sommes des sujets qui émanons d'une liberté totale liée au fait que notre corps, nos organes, notre physique sont le fruit d'un appariement chromosomique et génique totalement unique. Nous sommes sûrs d'être des êtres uniques. Même si la détermination de nos parents à nous faire est survenue dans une nuit d'ivresse, même s'il s'agissait de récupérer de l'argent des allocations familiales dans la détermination qui les a poussés à nous faire, il n'en reste pas moins que lorsque cette décision a été prise de nous laisser venir au monde, elle s'associait d'une liberté fondamentale qui était celle de notre originalité totale. Je n'aurais pas voulu que quelqu'un déterminât quoi que ce soit de mes caractéristiques physiques, même pas mon groupe HLA, et je ne ferai pas cela à autrui.
Bien, alors Gilbert Autois, oui. Cette dénomination, qu'en pensez-vous, vous-même? Crime contre l'espèce humaine, voire
écoutez,
crime contre l'humanité.
C'est évident que les Français se donnent les lois qu'ils veulent bien se donner, moi je ne suis pas français.
Mais vous souhaiteriez que les Belges s'alignent sur ce modèle ou non?
Eh bien voilà précisément, il y a une loi belge en cours d'analyse, de lecture, un projet de loi relatif à la recherche sur les embryons in vitro, où il y a un article 6 qui s'énonce de la manière suivante, le clonage reproductif humain est interdit. Point final. Alors personnellement, je préfère de loin cette interdiction-là, parce que dès lors qu'on dit que c'est un crime contre l'espèce humaine, on se demande qu'est-ce que cela veut dire. Ben, qu'est-ce que c'est que l'espèce humaine? Quel est le statut de l'espèce humaine? Quelle est la différence entre espèce humaine et humanité? Est-ce que c'est quelque chose comme l'essence humaine? Vous savez, pour un philosophe ne réagit pas au texte de droit comme un juriste ou comme un médecin. Hein, il prend les choses au sérieux, je dirais. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que c'est un crime contre l'espèce humaine ou contre l'humanité, eh bien voyons effectivement ce que cela signifie pour les siècles des siècles. Et alors là, moi je ne suis pas d'accord. Et je trouve qu'il y a toute une série de débats qui sont suscités autour du clonage qu'on pourrait éviter, qu'on devrait éviter, parce que la très très large majorité des gens sont tout à fait d'accord, des gens raisonnables sont tout à fait d'accord pour dire au moins que dans l'état actuel des choses, et probablement pour très longtemps encore, le clonage humain reproductif devrait être interdit parce que le développement des sciences et des techniques n'est pas du tout tel que cela semble raisonnable, parce que le débat éthique est effectivement ouvert et qu'il doit le rester. Ce qui fait que, au lieu de se contenter d'un accord pragmatique auquel tous les chercheurs, en général, devraient pouvoir se rallier, il y aurait quelques excentriques peut-être qui ne respecteraient pas cela, mais qui par conséquent ne respecteraient pas non plus, les règles qu'il faut respecter en ce qui concerne l'expérimentation humaine, à savoir le consentement informé, éclairé, etc. Je ne vois pas du tout comment, en respectant de telles règles, n'est-ce pas, sur lesquelles il y a un accord, on pourrait entreprendre des expériences de clonage humain reproductif. Donc, moi, je suis vraiment désolé que l'on ne s'en tienne pas à une interdiction de nature pragmatique qui peut être fondée, justifiée par des raisons extrêmement diverses, parce qu'elle aura chacun, évidemment, n'est-ce pas, de trouver ses justifications à partir de sa philosophie, à partir de sa religion, à partir de son idéologie, pour justifier cette interdiction, soit. Mais ce qui ne va pas, c'est que l'on veut imposer à tout le monde les mêmes raisons d'interdire, n'est-ce pas, les mêmes raisons et les raisons définitives.
Mais quand vous dites, quand vous dites pragmatique, vous dites aussi peut-être provisoire, et vous dites qu'au fond, l'interdiction ne peut être que liée à notre situation actuelle, à l'état des sciences et des techniques. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'interdictions qui, justement, transcendent, malgré tout, l'état historique des choses. Après tout, nous n'avons pas encore abrogé tous les articles du Décalogue. Alors, ne pensez-vous pas, mais même si vous jugez cette appellation un peu trop emphatique et problématique, ne pensez-vous pas que on peut vouloir une interdiction définitive d'une pratique qui, en tant que telle, porte atteinte à, disons, la pluralité humaine, sinon l'essence de l'humanité, sinon, je ne sais quoi qu'on ne peut pas trouver, du moins la pluralité humaine.
Écoutez, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi je vis dans un monde qui évolue, n'est-ce pas, et qui continuera d'évoluer, sous l'effet des sciences, des techniques, des mentalités. Et alors, imposer des lois de type décalogue, comme c'est vous qui avez utilisé le terme...
Mais je pense que le tu ne tueras point, si vous voulez, reste une loi
Oui, mais ça reste une loi, mais enfin, dans la pratique, il y a des tas de situations dans lesquelles, en fait, cette loi elle-même est transgressée, même légitimement transgressée, n'est-ce pas? Donc, c'est pas si simple que cela. Mais moi, je n'interdis à personne de se donner des lois de type décalogue. Je n'interdis pas à une société ou à une communauté d'adopter des positions fondamentalistes et intégristes. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'une telle communauté impose, veuille imposer sa conception, n'est-ce pas, de ces lois à l'ensemble de la société qui, vous le dites vous-même, est une société pluraliste. Et je regrette, mais j'ai une longue expérience des comités de bioéthique et je sais que sur les questions de vie et de mort, sur les questions de sens ultime de la vie, n'est-ce pas, sur les questions de philosophie de la nature, d'anthropologie philosophique, il n'y a pas d'accord. Et c'est normal, et c'est heureux d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'accord dans ces domaines. Donc, non, nous sommes dans des sociétés multitraditionnelles, dans des sociétés multiculturelles, et ce qu'il faut apprendre à gérer, c'est cette multiplicité. Évidemment, il faut des règles communes.
Mais des règles évolutives.
Mais des règles qui soient en tout cas susceptibles d'évoluer. De toute façon, les règles absolues sont en grande partie des mises en scène. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de théâtre là-dedans. Hein? Je trouve qu'il y a beaucoup de théâtre quand on parle de crimes, n'est-ce pas, de type quasiment métaphysique. Hein? Je trouve qu'il y a beaucoup de rhétorique là-dedans. Alors, je regrette, encore une fois, en tant que philosophe, je ne puis pas accepter cette façon de présenter les choses. Et alors, je me fais évidemment très souvent l'avocat du diable, ce qui fait qu'on a l'impression que je suis pour le clonage reproductif, mais pas du tout. Je trouve même que c'est un sujet très peu intéressant, monsieur Finkielkraut, mais vraiment très peu intéressant.
Oui, enfin, vous avez écrit dessus, donc...
Mais oui, parce qu'il faut bien réagir, étant donné que on apporte à l'introduction du clonage une série d'arguments, n'est-ce pas, qui sont des arguments que je ne peux pas admettre, parce qu'ils sont, c'est des sophismes, c'est fallacieux, c'est des choses qui sont
alors,
pas
nous
tout
verrons,
à fait vraies.
Nous verrons, enfin, vous vous exprimez en tant que philosophe, disons, pragmatique, non pas en tant que philosophe, il y a d'autres philosophes qui pourraient s'exprimer
Absolument. Autrement.
Vous dites,
Absolument.
Notre société change, telle est ma conviction, et le seul véritable problème est de négocier ces changements de manière à susciter le moins de souffrance en même temps que plus de possibilités d'épanouissement. Je cite un passage de votre livre dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler, Species Technica, et je passe la parole à Israël Nizan.
Oui, moi j'ai une remarque, mais c'est vrai que je ne parle pas en tant que philosophe, je parle en tant que médecin, confronté à la demande d'une population, confronté aussi à ce que j'appellerais le marché du soin, de l'offre de soins qui génère de la demande. Et je dirais que ce n'est pas parce qu'une loi peut être transgressée qu'il ne faut pas la faire. C'est vrai que si demain, si le décalogue n'était pas encore écrit, j'aurais tendance à proposer qu'on y écrive « tu ne tueras point », sachant fort bien que dans certaines circonstances, et même comme vous le dites de manière légitime, cette loi sera transgressée. Il me semble bien que la société ne peut pas tenir sans loi, et que là, il s'agit, dans la réflexion que nous menons à propos de quelque chose qui va venir, de marquer la position de la société par rapport à ce quelque chose. Même si cette loi sera modifiée, même si elle sera transgressée, il n'en reste pas moins que je trouve que le clonage fait courir un risque, car il y a des gens tout à fait consentants. Et on l'a vu dans l'exemple de la secte raélienne, il y avait des femmes totalement consentantes pour cloner le génome de Raël, pour cloner le génome de personnes tout à fait argentées et tout à qui ayant les moyens et des structures psychologiques très particulières. Je ne pense pas que les chercheurs qui vont travailler là-dessus le fassent ni dans l'intérêt de la science, ni des contextes qui soient toujours critiquables. Et en tout cas, le consentement des personnes ne me paraît pas acceptable et suffisant pour légitimer une pratique. J'aurais tendance même à dire que lorsque des parents nous disent « vous ne savez pas le malheur qu'il y a à perdre un enfant qui a une leucémie », cet enfant-là est condamné, nous allons le perdre, mais nous souhaitons mettre de côté des cellules pour refaire le même. Je pense que si la technique demain nous offre la possibilité de dire éventuellement oui à des parents. Je crois qu'on touche à une certaine transcendance de l'être humain et je crois que les sociétés, toutes les sociétés, sont obligées de prendre position sur cette question, car sinon, c'est la loi du plus fort et la loi de l'argent qui prime.
Mais Israël Nizan, vous dites, si on peut le faire demain, pourra-t-on vraiment le faire demain? L'annonce raélienne était un coup publicitaire, on l'a bien vu. Le docteur Antinori est très pressé, mais visiblement, il n'a pas encore les moyens de le faire. C'est-à-dire, doit-on considérer le clonage comme une éventualité pour le siècle qui vient ou les années qui viennent, ou s'agit-il d'un petit cauchemar qu'on entretient pour se donner des frissons alors même que nous sommes très loin du compte?
Nous sommes très loin du compte, mais l'homme est bien mauvais prophète d'une manière générale, et nous sommes incapables de prédire à quelle vitesse vont les choses. Il y a de cela 6 ans, tout le monde pensait que le clonage chez les mammifères ne marchait pas. Et Yann Villemut est venu et nous a démontré que ça marchait. On pensait que ça ne marchait que chez les batraciens, et maintenant nous savons que ça marche chez les mammifères. Et je ne vois pas de raison scientifique ni théorique pour penser que si ça marche chez les brebis et chez les veaux, je ne vois pas quels sont les arguments qui me permettraient de dire que ça ne marche pas dans l'espèce humaine, dont le génome n'a pas de si grande différence, et dans l'agencement de la mécanique cellulaire, nous sommes très ressemblants, les mammifères, les uns avec les autres. Et donc, je peux dire que dans les 10 ans, si la communauté scientifique se met à travailler dessus, parce que là, il y a une ambiguïté, mais si nous nous mettons à travailler sur cette question-là, et cette question celle des vraies questions, les rapports entre le cytoplasme et le noyau, pour la communauté scientifique qui a un intérêt énorme à travailler sur cette question. Si nous travaillons dessus, dans 10 ans, je pense que c'est fait.
Hubert Ottois. Alors, je vais vous poser une question.
Que je réagisse.
Soit vous voulez réagir, soit je pose une question.
Je pense que je ne vais pas répéter.
Alors, attendez. Alors, vous n'allez pas répéter, mais je vais vous parler.
Moi, j'ai un petit peu l'impression, tout de même, qu'on est encore au Moyen-Âge, qu'on est dans la querelle des universaux. Lorsqu'on a d'un côté la France et de l'autre côté le monde anglo-saxon, n'est-ce pas la France qui défend l'espèce humaine, l'humanité, l'essence de l'homme, donc des universaux, tandis que de l'autre côté, il s'agit de personnes, il s'agit d'individus, de particuliers, et seuls les particuliers existent. Je dois dire que je suis plus proche, je me sens plus proche, plus sensible à cette façon-là d'aborder les choses, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut interdire le clonage reproductif humain. Il l'est d'ailleurs dans la proposition de loi belge que j'ai suivie. Mais pourquoi y ajouter, n'est-ce pas, un emballage métaphysico-ontologico-théologique que tout le monde n'est pas capable... Vous voulez toujours m'arrêter de parler?
Je ne veux pas vous arrêter de parler, je veux vous interpeller et continuer, bien sûr.
N'est-ce pas, pourquoi mettre cet emballage que je viens d'appeler ontologico-théologico-métaphysique, sur lequel, effectivement, nous ne pouvons pas être d'accord, même pas d'accord à un point extrêmement élémentaire, celui de la querelle des universaux, dont je viens de parler.
Alors justement, je vais quand même vous poser une question.
Et pourquoi croyez-vous qu'une loi comme la loi belge, qui dit simplement les choses et qui a sorti évidemment cette interdiction de certaines peines, risque d'être davantage transgressée que si vous dites que c'est un crime contre l'espèce humaine? Et j'ajoute ceci, si vous considérez que c'est un crime contre l'espèce humaine ou contre l'humanité, et si un enfant cloné naît, mais est-ce que vous vous rendez compte du poids dont vous le chargez? Il va être l'enfant du péché, n'est-ce pas, du péché absolu, du péché contre l'humanité. Bien sûr, la loi ne dit pas, si j'ai bien compris, qu'il faut mettre les parents en prison ou l'enfant en prison. Mais alors, il aura des problèmes, n'est-ce pas, et des problèmes psychologiques, vous pouvez être sûr qu'il en aura. Il sera l'enfant d'un crime contre l'espèce humaine. Mais est-ce que vous vous rendez compte?
Mais comme le viol, les enfants issus du viol ethnique en Yougoslavie ou dans l'ex-Yougoslavie sont aussi les enfants d'un crime contre l'humanité, désormais, puisque ça a été jugé à l'AE comme cela. Et donc, je pense que...
Il n'y a pas de consentement.
Mon argument pour le crime contre l'humanité, et que si la loi belge et la loi française l'interdisent, il n'empêche pas Antinori de se mettre dans les eaux internationales et de le faire.
Et puis alors moi je voudrais quand même justement essayer de réfléchir à cette question du point de vue de l'intérêt de l'enfant cloné lui-même. Et vous opposez un philosophe qui n'est ni anglo-saxon ni français. Il nage aussi dans d'autres eaux internationales. Un philosophe que vous connaissez parce que vous avez écrit sur lui, c'est Hans Jonas. Et Hans Jonas réfléchit à la question du clonage. Il dit même justement que ce pouvoir menaçant fait apparaître une dimension inaperçue de l'être de l'homme qui est à préserver. Et il dit ceci, il y aurait effectivement, face à cette possibilité d'une espèce de reproduction à l'identique, c'est-à-dire d'un enfant conforme, au moins dans son enveloppe physique, au projet exact et à la texture, si je puis dire, de son géniteur, il faut préserver un droit humain fondamental, rester jusque-là dans l'ombre, le droit à l'ignorance, le droit de l'individu à ignorer ce qu'il en est de sa propre identité et qui n'est nullement incompatible d'ailleurs avec le précepte du connais-toi toi-même. Et donc, il a ce motif, ce commandement, si vous voulez, qui n'est peut-être ni métaphysico-théologique, mais qui effectivement surgit de la circonstance, sans être pour autant pragmatique, respecte le droit de chaque vie humaine de trouver sa propre voie et d'être une surprise pour elle-même. Ne peut-on pas fonder cette interdiction sur un tel respect, sur un tel commandement, plutôt que d'en rester à une vision pragmatique et plutôt même, Gilbert Autois, que de dire, comme vous le faites, qu'il ne faut plus interpréter le principe de réalité dans un sens essentiellement théorique ou narratif, mais le comprendre comme invitant à entériner, à saisir la réalité opératoirement afin de transformer indéfiniment la condition factuelle des humains. Car si on interprète la réalité de manière opératoire, alors bien entendu, l'interdiction du clonage ne peut être que provisoire et doit être un jour transgressée, le jour où la science sera prête et où les mentalités seront prêtes. Donc votre interdiction s'appuie, elle, sur une vision du monde qui, me semble-t-il, en réalité, réclame à un moment donné de l'histoire l'autorisation du clonage. Gilbert Autois.
Écoutez, je crois que nous ne vivons pas dans le même monde et surtout pas dans la même temporalité. Moi, je prends au sérieux la temporalité dont parlent les sciences et les techniques contemporaines, qui est une temporalité extraordinairement ouverte et ancienne. C'est pas qu'il s'étend sur des millions d'années. Quand on parle de l'espèce humaine, il faut songer à cette temporalité-là. Et le philosophe a, à mon avis, l'obligation de tenir compte de ces questions. Je pense que ce qui agit sous ces débats, c'est souvent une conception de la temporalité qui est encore eschatologique, n'est-ce pas, historique, une temporalité qui est relativement limitée, avec un sens, non pas une temporalité ouverte sur un abîme temporel. Je ne souhaite pas l'évoquer, mais lorsqu'on utilise des arguments de type métaphysique ou de type philosophique, comment voulez-vous que je n'évoque pas ce genre de questions? Et ce que je sens en dessous des condamnations du clonage, c'est une espèce de confiance dans le hasard, aussi de valorisation du hasard, la loterie merveilleuse du génétique. Enfin, cette loterie merveilleuse du génétique, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle produit aussi comme malheur et comme misère? Et quel est le rapport entre le hasard et la liberté humaine, entre l'indéterminisme et la liberté humaine? Il n'y a pas du tout de rapport direct. La liberté, le choix, c'est pas du tout la liberté d'indifférence, c'est pas du tout le jeu du hasard, n'est-ce pas? Alors, ce que je pense, c'est que ce qu'on appelle le hasard, il faudrait plus ou moins l'interpréter comme un finalisme ou comme une providence, n'est-ce pas? C'est cela que je sens agir sous cette valorisation-là.
Justement, Israël Nizan.
Moi, j'ai du mal à entendre que la loterie génétique n'a pas fourni des choses valables pour l'espèce humaine, car ce que nous sommes est totalement le fruit imprévisible de cette loterie génétique, même s'il y a eu bien entendu, des ratés. Donc, l'évolution de l'espèce humaine qui s'est faite sur les 100 000 dernières années, est le fruit de cette loterie génétique. Et, chaque fois que d'ailleurs l'homme s'en est mêlé, il l'a fait à tort. Nous sommes totalement incapables. On a proposé des haras humains pour essayer d'influencer la qualité de la race humaine. Il n'y a pas longtemps de cela, et dans le corps médical de toute l'Europe, on était préoccupé de la dégénérescence de la race humaine sans définir ni le terme dégénérescence ni le terme de race. Mais la loterie génétique imprévisible est quelque chose qui nous a fait évoluer, et d'ailleurs qui peut encore nous faire évoluer. Les conditions climatiques de la planète sont susceptibles de changer, et nous savons très bien que ceci agira bien, de manière bien plus grave sur l'espèce humaine que ce qui se débat ici, où c'est à la marge que les choses se passent. Et donc j'aurais tendance à dire que oui, je suis conditionné dans ma liberté par le hasard qui m'a fait naître, car personne ne pouvait me traiter avant que je fusse né comme un objet et dire quelque chose qui ait une quelconque valeur sur moi et sur mon anatomie et sur mon corps et sur mes caractéristiques physiques. On pouvait dire quelque chose, je le désire garçon, je le désire fille, je le désire intelligent, mais on ne pouvait pas dire il aura tel groupe HLA, il aura tel groupe sanguin, il aura telle taille et il sera courageux, car ou alors si on le disait, on l'espérait, mais on ne pouvait pas avoir sur ma destinée une action véritablement positive. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous avez dit, je crois que nous sommes à un tournant de l'humanité où nous avons désormais des possibilités qui sont sans commune mesure avec les possibilités qu'on avait lorsqu'on pensait au haras humain, où on partait sur des prémices scientifique qui était faux. Désormais, les prémices scientifiques, c'est-à-dire le fondement génétique et technique qui prévaut, a enfin accédé à une certaine efficacité, ce qui nous donne désormais l'obligation de réfléchir.
Mais il faut pas exagérer le déterminisme génétique par rapport à la psychologie des individus, par rapport à l'apport de la culture. Je pense qu'en France, tout particulièrement, on insiste beaucoup sur l'importance de l'apport culturel. Et même en ce qui concerne le clonage, vous le dites vous-même dans votre article d'ailleurs, que tout n'est pas du tout prédéterminé, qu'il y a des facteurs, des interférences entre gènes, avec le milieu, etc. Donc, il ne faut pas exagérer ce déterminisme. Je crois que l'argument, très souvent, porte davantage sur les fantasmes parentaux, en quelque sorte, sur le fantasme de celui qui veut un clone, n'est-ce pas? Et je pense que là, effectivement, il y a des éléments, parce que de mon point de vue, le clonage le plus terrible, c'est le clonage psychologique, c'est le clonage spirituel. Ce qui est terrible, c'est la reproduction de personnalité ou la reproduction de mentalité. Or, qu'est-ce qui réussit le plus efficacement dans ce domaine? Ce sont les différents conditionnements, n'est-ce pas? Les différents conditionnements liés à des idéologies, liés à des fondamentalismes, liés à des intégrismes. Alors, des clones, messieurs, vous en avez partout, vous en avez en masse, des clones psychologiques. Et je trouve que ce clonage-là, qui interdit la liberté de penser, n'est-ce pas, qui impose notamment des décalogues, qui impose des lois, c'est vous qui avez parlé du décalogue, n'est-ce pas?
Si vous parlez, si vous passez le décalogue en termes de clonage, c'est pas mal.
Écoutez, cela revient à vouloir reproduire une société à l'identique, n'est-ce pas? Si vous avez des lois absolument fermes, non évolutives, dogmatiques, n'est-ce pas, et que vous répétez de génération en génération, que vous inculquez dans la mentalité des individus, eh bien, vous pouvez être sûr que ces individus seront relativement prédictibles dans leur comportement, oui, et qu'ils ne disposeront pas tellement de liberté de penser. Et je pense que le véritable danger est bien davantage là que dans les conséquences d'un certain déterminisme génétique. Et je ne suis pas du tout en train de défendre, je le répète, le clonage, mais simplement en train de critiquer certains arguments contre le clonage condamné de façon absolue, c'est-à-dire, encore une fois, dans ce cadre que je viens de critiquer.
Donc, alors,
et le problème, il est là. Sinon, nous sommes d'accord. Alors, vous ne voulez pas que nous soyons d'accord?
Non, il s'agit pas de ça. Nous allons passer à d'autres aspects, à la question du clonage thérapeutique, et peut-être aussi de nouvelles techniques. Mais une chose tout de même. D'abord, un ordre symbolique n'est pas forcément un intégrisme. Et puis, surtout, vous parliez de fantasmes. Mais n'y a-t-il pas aujourd'hui à l'œuvre un fantasme technique qui a des possibilités de réalisation et dont vous exprimez quelque chose, Gilbert Autois, dans Species Technica, quand vous dites, au fond, nous devons considérer la réalité comme malléable, comme justement un champ d'opération. Là, il se produit quelque chose dans notre rapport au monde. Et il y a une distinction ancienne, en effet, faite par les Grecs, qui risque de disparaître, au détriment peut-être de ce qui reste de liberté humaine, entre le domaine de la praxis et le domaine de la poiesis. Il y a praxis parce qu'il y a pluralité humaine. Donc, c'est le domaine de l'action, dirons-nous, avec ses ambiguïtés, ses enchevêtrements, ses empêtrements, ses ironies, etc. Et donc, un besoin de narration pour mettre tout ça en ordre. Et le domaine de la fabrication, qui est tout à fait taciturne, où on manipule les choses, mais si vous introduisez dans le domaine de l'action les possibilités et les fantasmes de la fabrication, si vous donnez une définition opératoire de la réalité, là vraiment, il y a un rapport de l'homme à lui-même et un rapport de l'homme au monde qui se perdent au profit, en effet, d'un univers de la manipulation généralisée. Et c'est peut-être à cela qu'on essaye, avec les moyens du bord, et aussi notre mémoire historique, et de réagir en disant non au clonage.
Oui, mais je suis d'accord, les rapports entre praxis et poésis évoluent, se modifient. Maintenant, poésis, c'est pas exactement fabrication, hein. C'est création. C'est aussi création dans le courant de créativité de la physis, donc de la nature. Mais il faut aussi dire que, et c'est un problème, que lorsqu'on parle d'action, on parle beaucoup d'action, action politique, et l'action est très valorisée, la praxis est très valorisée. Quand on va voir ce que c'est essentiellement parler, effectivement. C'est essentiellement parler. Eh bien, je pense que ce clivage entre une praxis, une action qui est essentiellement de l'ordre langagier, et une poésis qui serait donc taciturne, comme vous dites, je trouve que ce partage n'est pas bon et doit être revu, surtout dans le cadre d'une science et d'une technique, ou d'une technoscience, comme je dis quelquefois, qui de plus en plus produit ces objets, n'est-ce pas, crée ces objets, mais dans tous les domaines, pas seulement la biologie, évidemment.
Vous voulez répondre? Je vais poser une question très amusante.
Répondre, non, mais apporter un élément supplémentaire. Personnellement, je ne fonde pas ma répulsion vis-à-vis du clonage reproductif sur les problèmes techniques, psychologiques ou fantasmatiques qu'il pourrait donner. C'est vrai qu'actuellement les choses ne sont pas prêtes, que techniquement les individus clonés ont des différentes maladies, etc. Mais je ne crois pas que si on fondait la réflexion sur ces éléments-là, y compris sur les conséquences psychologiques que personne n'est capable de deviner, il viendrait probablement un moment où on nous dirait c'est prêt, la technique, les problèmes techniques sont résolus, donc allons-y, on peut y aller. Je trouve que le fantasme parental... je suis d'accord avec vous quand vous dites que le clonage psychologique, c'est sûrement quelque chose de bien plus grave. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de plus grave à côté que personne ne peut empêcher qu'il faut accepter...
Faites-en un crime contre l'espèce humaine ou contre l'humanité.
Qu'il faut accepter... Non, je...
Mais c'est une métaphore, non, mais il faut faire attention aux métaphores.
Non, l'utilisation du terme crime contre l'humanité est simplement due au fait qu'il n'y a pas de loi transnationale, et que là, c'est Antinori qui a dit, si c'est interdit en Italie, j'irai le faire dans les eaux internationales. Et je pense qu'on créerait...
Même, je suis d'accord, c'est pas le même registre, hein, le droit, la philosophie. Voilà. Mais on rencontre
mais
ce
on
problème
créerait
tout le
des
temps,
paradis génétiques immédiatement. Si on l'interdit en Belgique, on le fera au Liechtenstein. Et c'est ça qui me perturbe. Si on l'interdit, et vous me semblez d'accord avec l'interdiction du clonage reproductif, si on l'interdit, interdisons-le sur toute la planète.
Bien, alors là maintenant, je voudrais peut-être qu'on ouvre le problème à d'autres techniques disponibles et que vous enseignez et que vous pratiquez, je crois, Israël Nizan, comme la procréation médicalement assistée, le diagnostic prénatal et également le diagnostic préimplantatoire. Alors, à ce propos, je voudrais vous lire d'abord un passage d'un livre de France Quéré qui s'intitule « L'homme, maître de l'homme ». Et elle écrit
à un moment, la grandeur de la parenté consiste en une proposition, non pas en une imposition. Le jour où l'enfant serait conformé par son sexe ou ses cheveux blonds ou ses aptitudes mentales parce que son père ou sa mère l'aurait voulu, on ne pourrait plus parler de lui comme d'un sujet libre, rivé qu'il serait irrémédiablement à cette volonté parentale. Et elle ajoute également que, rappelant un vieux texte, qui est la Bible, avons-nous remarqué que dans le premier face-à-face d'Adam et Ève, il n'est nullement question de procréation. Le fondement de la famille n'est pas la propagation de l'espèce, mais une parole prononcée, le sceau apposé par la culture sur les nécessités physiques de la vie de la sorte transfigurée. Ainsi, l'enfant apprend-il qu'il n'est pas d'abord l'objet d'un désir, quelle que soit l'exaltation que l'on prête aujourd'hui avec une sorte d'ingénuité à cette expression, le désir d'enfant. Non, il naît parce que des sentiments et des serments lui préexistaient. Il ne gouverne pas ses géniteurs et encore moins sa génitrice, embrasée de lui seul et réunie pour lui. Cela s'étreigne pour goûter une plénitude dont il est exclu. Je crois à la valeur de cette antériorité pour la constitution de cet enfant. J'ai lu ces deux textes parce que on peut se demander si la polarisation sur le clonage reproductif, aléatoire et sans doute très minoritaire quand il sera appliqué, ne risque pas de nous habituer à d'autres pratiques qui vont dans le même sens. Le diagnostic préimplantatoire identifie des embryons porteurs d'une anomalie génétique et réimplante des embryons indemnes. Et on peut se demander se poser cette question, si nul garde-fou n'est mis à cette espèce de pulsion eugénique, l'enjeu deviendra bientôt de retenir les moins défectueux parmi les nombreux embryons disponibles pour chaque couple, afin de transformer l'enfant à naître en enfant idéal, si ce n'est en enfant parfait. Donc, les pratiques déjà existantes ne nous dirigent-elles pas vers le mythe, le fantasme et la réalité de l'enfant zéro défaut ? Israël,
mais Alain Finkielkraut, nous y sommes depuis 20 ans. Et nous y sommes pas par le biais du diagnostic préimplantatoire, mais par le biais du diagnostic prénatal, qui est devenu dans toutes les nations occidentales réalisé à une échelle industrielle. Plus une femme française, ni belge d'ailleurs, ne passe sa grossesse sans avoir multiples échographies, voire de multiples prélèvements, pour savoir si elle est porteuse d'un enfant trisomique 21, par exemple. Et donc, il y a en France, sur 800 000 grossesses, 780 000 femmes qui subissent le diagnostic prénatal, et ceci n'a pas posé problème. En fait, le vrai problème, il est là. Le diagnostic préimplantatoire, pour le resituer, et je suis assez frappé que dans notre pays, il ait donné un tel débat, est une sorte de diagnostic prénatal, mais tellement marginal, disons le mot, depuis 3 ans qu'il existe en France, il a donné naissance à 10 enfants à Strasbourg, 30 enfants à Paris, et à 150 couples en attente, et la Belgique, qui nous a un tout petit peu devancé dans le temps, il y a une centaine d'enfants nés. Donc, et si on raconte l'histoire de ces parents qui ont déjà mis au monde un ou deux enfants myopathes, qui sont en train de mourir à la maison, et qu'ils ne veulent plus entendre parler d'une interruption médicale de grossesse après un diagnostic prénatal, et qui disent, nous ferions bien un enfant si nous étions sûrs que cette maladie-là, pas les cheveux blonds ou les yeux, cette maladie terrible qui met 5 ans à mourir à la maison, si nous étions sûrs, en forçant un tout petit peu le destin, de ne pas avoir 7 chances sur 4, mais nous voulons tirer les 3 autres cartes sur 4, eh bien moi je ne vois pas où est l'atteinte à la morale. On est non pas dans le fantasme de l'enfant zéro défaut, On est dans la volonté d'avoir un enfant en bonne santé qui va pas souffrir le martyr avant de mourir.
Quand vous me dites nous n'y sommes déjà, nous n'y sommes pas. Je pose une question.
Pour le DPI, nous ne sommes pas.
Non, ce que je veux dire, c'est la science va-t-elle, dans les années à venir, se mettre largement au service de ce désir, d'ailleurs tout à fait légitime d'une manière.
Tout de même.
Mais légitime et fou. Il y a une légitimité folle. L'enfant, le parent voudrait que son enfant soit quasiment immortel. Donc le désir légitime et fou de l'enfant zéro défaut. Est-ce que c'est une crainte? C'est une crainte fondée ou non fondée?
C'est une crainte fondée, et il faudra que la société intervienne, car je ne pense pas que ça puisse être les médecins qui, tout seuls, du haut de leur pouvoir,
puisse abuser de ce pouvoir. Il va falloir que d'autres gens, que les médecins, interviennent sur ces sujets et se déterminent, et déterminent les sociétés, au moins nationales. Mais quand vous dites désir fou, mais oui, nous sommes confrontés actuellement à des parents, rares certes, qui nous disent, voilà, mon enfant est atteint d'une maladie dont on a pu dire, c'est pas une maladie, il a un chromosome Y supplémentaire. J'ai fait Internet, docteur, et il y a 25 ans, quelqu'un a publié sur l'Y supplémentaire en titrant « Le chromosome de l'assassin ». Je sais bien que ce généticien s'est trompé, puisque 2 ans plus tard, j'ai lu son article où il avait fait un biais dans son recrutement. Mais tout de même, je ne supporte pas de porter dans mon ventre, même s'il est tout à fait normal et que j'en ai la preuve, un enfant qui est un double Y, car il risquerait d'avoir une agressivité excessive. C'est pas chez moi qu'elle a été avortée, mais ils ont été à Barcelone quand même pour l'avorter. Et donc, il y a véritablement une demande qui n'ont pas une demande sur la maladie d'un enfant, mais sur des potentialités, des probabilités de maladie. Et nous sommes, vous le savez, en train de rentrer dans une médecine prédictive où nous saurons dire dans très peu de temps si une femme a un risque de cancer du sein à l'âge de 40 ans ou si vous avez un risque d'infarctus du myocarde ou un risque d'Alzheimer. Et ça ira très vite que l'on nous demande si le fœtus in utero a une probabilité d'avoir un Alzheimer avant l'âge de 60 ans ou non, et de nous demander d'éliminer les enfants qui sont susceptibles d'avoir un Alzheimer à l'âge de 60 ans. Et moi, je dis que les médecins ne peuvent pas être tout seuls confrontés face à cette demande et qu'il faut que les sociétés disent quelque chose et donnent du sens à ce alors, que nous ferons.
Gilbert Rotois, donner du sens et donc peut-être poser sens. Des limites.
Non, simplement. Je n'aime pas qu'on mette des limites définitives et absolues et qui ne peuvent jamais changer. Je trouve que ça n'a pas de sens, tout simplement.
C'est d'ailleurs impossible.
Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas de limites. Ce serait,
vous n'aimez pas l'ontologisation des limites, hein. C'est ce que vous dites dans votre...
Oui, absolument, parce que ça met fin au débat aussi. Et ça met fin à l'émission réplique, par conséquent. Va, parce que si vous avez la vérité, si vous avez les règles immuable, et bien à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. En ce qui concerne le diagnostic, que ce soit le test génétique, que ce soit les échographies, etc., moi, personnellement, je n'ai pas, mais je ne suis pas médecin, bien sûr, mais je n'ai pas de problème fondamental avec ces pratiques dans la mesure où elles visent simplement à éviter la mise au monde d'enfants handicapés, et plus ou moins gravement handicapés. Je ne dis pas non plus qu'il faut imposer ce type de test, bien entendu, libre aux parents d'assumer, en n'oubliant pas cependant que les parents vieilliront et que les parents, à un certain moment, devront bien, comment dire, passer la souffrance et le problème à la société. Donc, je ne fantasme pas sur l'enfant idéal, Monsieur Finkielkraut. Ça ne veut rien dire pour
non,
moi.
Non, mais
c'est pas dans la perspective. Moi, je ne suis pas dans une perspective eschatologique de surhomme ou d'homme idéal. Je suis dans une perspective temporelle extrêmement ouverte et inanticipable. Il faut donc faire effectivement preuve de prudence et preuve de vigilance, n'est-ce pas, et réguler les choses, certainement. Mais il ne faut pas prendre des dispositions qui font comme si on avait accès ou comme si on vivait dans l'intemporel. Parce que c'est toujours le même problème. Et alors, si je puis me permettre de faire allusion à votre article...
Oui, un article paru dans Le Monde.
Tout est parti de
ça. Vous
voyez, pour moi... Cette problématisation sous forme de querelle des universaux, hein. Donc il y a quelque chose comme l'essence de l'homme ou l'idée de l'homme qu'il faut préserver, etc. Eh bien, c'est cela qui vous conduit à dire quelque chose que moi je ne peux absolument pas accepter, comme en effet une bombe atomique sur une ville tue énormément, détruit beaucoup, salit l'humanité, mais n'altère pas sa définition même, tandis que des modifications de modalité de la procréation touchent à la nature même de l'espèce humaine, d'où le ravage immédiat et collectif. De quoi le lecteur déduit qu'il faut finalement mieux, n'est-ce pas, avoir une bombe atomique sur une cité plutôt que d'avoir un clone, que ce serait plus grave. Mais c'est plus grave dans ce monde idéal transcendant, mais c'est pas... Écoutez, ça m'a choqué. Voilà, ce genre de discours me choque et je pense qu'il est entraîné par des positions de type idéaliste, philosophique, peut-être pas toujours très explicitement, parce que, bon, tout le monde ne réfléchit pas à cela sous la perspective du philosophe, bien entendu. Mais moi, je suis très sensible à cela.
Ivan Nizan.
J'ai voulu exprimer par ces quelques phrases une différence de nature entre... Je sais que l'homme fera toujours le meilleur et le pire de ses découvertes.
Espérons qu'il fasse de plus en plus le meilleur. Hein.
Mais il a toujours fait dans l'histoire. L'histoire des sciences est ainsi faite que l'homme a toujours fait le meilleur et le pire de ses découvertes. Mais ce que j'estime, il y a un degré de gravité supplémentaire dans les découvertes en biologie de la reproduction. Car imaginez, nous connaissons très très bien le moyen d'injecter des gènes dans des organismes vivants. Et nous pouvons donc, dès lors que nous nous autorisons à manipuler l'espèce humaine, si nous nous y autorisions, nous serions capables d'injecter des gènes de croissance, gènes sur la taille, et de modifier ainsi le cours de l'espèce humaine qui, pour l'instant, a évolué en fonction du hasard. Et je considère que le hasard n'a pas si mal fait les choses. Et donc, je dis qu'avant de laisser faire cela à un endroit ou à un autre, le minimum, c'est de réfléchir et de ne pas faire les déus ex
machina. Mais alors justement, vous êtes pour réfléchir, Gilbert Autois. Je voudrais vous poser une petite question et ensuite en venir brièvement à la question du clonage thérapeutique. Est-ce qu'on est en mesure de réfléchir à ses conséquences, et peut-être, c'est-à-dire à ce qui pourrait être la suppression du donné au profit d'un technocosme, si on se donne pour guide, pour boussole, pour viatique, cette idée qu'il faut accompagner les changements de manière à susciter le moins de souffrance, et en même temps que le plus de possibilités d'épanouissement. Dans ce terme d'épanouissement, ne peut-on pas penser que tous les fantasmes risquent précisément de s'engouffrer? Et alors là, le paradoxe est éclatant. Nous sommes dans un monde qui ne parle que de l'autre, qui en a plein la bouche de l'altérité, et qui semble voué à détruire les conditions mêmes de l'altérité. Donc, on est pour l'autre, et en même temps, où est l'autre, puisqu'on veut du même, jusque précisément au clonage, qui est, si vous voulez, le même à l'état pur, si je puis dire.
Qui veut du même, en tout cas pas dans ce que j'écris. Non, je serais plutôt pour une diversité à la fois au niveau des espèces, de la nature, des cultures, et aussi des techniques. Non, ceux qui veulent du même, excusez-moi, c'est ceux qui veulent des lois universelles, c'est ceux qui veulent des lois mondiales. Alors, voilà ceux qui veulent du même. Hein, ce n'est pas ceux qui, éventuellement, dans d'autres conditions, et peut-être un jour, seraient ouverts, par exemple, à ce que, dans certaines circonstances, certains individus se reproduisent par clonage. Pourquoi ? Ce serait du différent, cela, vous savez. Parce que ça deviendrait du même si vous massifiez à toute une société, mais en attendant, ce serait du différent. Hein, ce serait un mode supplémentaire de possibilité de reproduction de l'espèce humaine. Par conséquent, ajouterais-je, sans y assister autrement, que ce serait pas contre l'espèce humaine, ce serait même une espèce de, comment dire, d'avantage évolutif, puisque voilà que cette espèce humaine disposerait en tout cas d'une autre modalité de reproduction. Donc il faut bien faire attention, où est le même et où est l'autre.
D'accord. Contrairement à une bombe atomique qui tombe quelque part et tue du monde localement, elle est rétro-contrôlée, car il y a très peu de bombes qui sont tombées, vu que les gens qui presseraient sur le bouton risqueraient d'être touchés eux-mêmes. En biologie de la reproduction, il n'y a plus de rétro-contrôle. Et quand vous imaginez que quelque part, le clonage puisse donner lieu à une société qui, elle, aurait accepté le clonage, il ne faut pas considérer que ça ne toucherait que cet endroit-là. Ça toucherait toute l'humanité et rapidement.
Alors, une dernière question qui va peut-être vous réconcilier.
Excusez-moi, mais les généticiens, démographes avec lesquels je parle, disent que ça se perdrait quelques clones, ça se perd immédiatement dans le pôle génétique et le polymorphisme de l'humanité.
Alors, peut-être une dernière question quand même pour vous réconcilier. Est-il légitime, selon vous, d'associer dans une même réprobation et aussi dans une même appellation clonage reproductif et clonage thérapeutique? Ce qu'on appelle le clonage thérapeutique est-il du clonage, et pourquoi faut-il les interdire tous les deux? Israël.
Je ne pense pas qu'il faille les interdire tous les deux. Et si la loi française les interdit tous deux, c'est parce qu'une loi est toujours un compromis entre les gens qui vivent dans un pays, et que effectivement, on a estimé que c'était prudence que de dire ne mettons pas les moyens de la recherche scientifique universitaire sur cette question, car ça donnera les moyens à des fous de faire du clonage reproductif. Mais le clonage thérapeutique est du clonage, en ce sens qu'on crée des embryons.
Mais on ne crée pas un autre être humain.
On ne crée pas un autre être humain. C'est-à-dire que l'embryon, les cellules représentées par l'embryon au départ, vont être utilisées pour faire des greffes ou des donneurs d'organes, pour quelqu'un qui a été granvolé pour refaire de sa peau, pour un infarctus du myocarde pour lui refaire des cellules myocardiques qui ne seraient pas rejetées par son organisme. Je pense que la France se met dans une situation difficile en interdisant à ses chercheurs de travailler sur le clonage thérapeutique, car si jamais des techniques de soins venaient à être disponibles, issues de cette recherche, nous aurions assez mauvaise grâce. Nous ne pourrons pas les interdire aux Français, et nous aurions assez mauvaise grâce de dire mais maintenant nous vous rejoignons pour soigner les petits Français.
Ça, c'est un argument factuel, mais est-ce que, justement, sur le plan des valeurs, vous seriez-vous favorable à une recherche, ayant pour horizon ou pour objet le clonage thérapeutique?
Oui, à une condition, c'est qu'on correctement interdit le clonage reproductif. C'est-à-dire que il faut verrouiller, il faut mettre des bastingages au bord du bateau pour que l'utilisation de recherche du monde scientifique ne puisse pas être dévoyée vers quelque chose qui n'a aucun intérêt médical et qui n'a que des intérêts connotés de manière bizarre dans l'état actuel des choses. Une loi est toujours faite pour être changée et il y a une évolutivité, mais avec ma perspective personnelle et philosophique au nom de mes valeurs, je pense que oui, le clonage thérapeutique, il faut autoriser la recherche parce qu'elle pourrait mener sur des choses importantes, mais en même temps, il faut s'être assuré de ce que ça ne donnera pas de manière massive du clonage reproductif.
Bah là-dessus, vous êtes d'accord, j'imagine, Gilbert Rotoy?
Nous sommes d'accord, et je puis même ajouter que la loi belge permet le clonage, enfin des recherches sur le clonage thérapeutique, donc création d'embryons pour la recherche, hein, c'est ça que ça signifie, puisque il faut les cloner. Donc c'est accepté, c'est très encadré, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs toujours en cours de discussion, mais ce qui prouve aussi que c'est une question de politique en grande partie, n'est-ce pas? Alors n'y mettons pas trop d'éthique, ne faisons pas passer pour éthique et scientifique ce qui est de l'ordre politique pour commencer, et surtout, comment dire, ne faisons pas autour du clonage des guerres de religion larvées. Malheureusement, c'est un peu trop ce qui se passe, hein, parce que à l'abri des comités d'éthique, à l'abri des discussions d'éthique, ce sont des visions du monde, évidemment, ce sont des traditions et des religions qui s'affrontent. Il faut être très très prudent en ce qui concerne cette tentation de rethéocratisation de la...